Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Pendant longtemps, on s'est émerveillé de la croissance économique chinoise, de ces centaines de millions de citoyens chinois qui sortaient de la pauvreté. Et puis, on a compris que la Chine devenait une puissance mondiale, que ses entreprises étaient conquérantes, et on a commencé à s'en inquiéter. Parallèlement, l'ascension des grandes entreprises américaines de l'Internet, les Google, Amazon, Facebook, Apple, bouleversaient nos vies quotidiennes et révolutionnaient elles aussi l'économie mondiale. Cependant, l'aptitude de ces mastodontes à échapper à l'impôt pénalise les États qui en sont privés et a fini par provoquer colère et inquiétude. Obnubilés par ces deux phénomènes majeurs, la Chine et la Silicon Valley, peut-être avons-nous cependant laissé passer un autre phénomène, non moins négligeable, la très violente offensive menée par les autorités américaines contre les entreprises étrangères, qu'elles soient chinoises ou européennes. Alors qu'est-ce que c'est que cette offensive? Quels sont ses objectifs? À quand remonte-t-elle? Ses moyens, quels sont-ils? Qui est visé? Et quel est l'impact économique de cette guerre? Voilà les questions que je vais poser à nos deux invités que je vous présente maintenant. Tout d'abord vous, bonjour Ali Laïdi.
Bonjour Jean-Pierre.
Ali Laïdi, vous êtes journaliste et chroniqueur à France 24, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, auteur de très nombreux livres consacrés à la guerre économique en général. Vous venez d'en publier un nouveau qui s'intitule « Le droit à nouvelle arme de guerre économique ». Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, et c'est publié aux éditions Actes Sud. Avec nous en studio, Sébastien Jean également, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, mais vous êtes aussi surtout économiste. Vous dirigez le Centre d'études et de prospective internationale, le CEPI, qui se dit le principal centre de recherche français en économie internationale. Un centre qui s'intéresse aussi à la France. Vous venez par exemple de publier une très intéressante étude consacrée à l'atonie des exportations françaises. Alors au cours de cette émission, nous avons aussi rendez-vous avec un peu d'histoire économique grâce aux archives sonores de RFI. Ali Laïdi, ma première question est pour vous. On va reprendre le titre, le sous-titre de votre livre. En quoi le droit est-il une arme économique des États-Unis contre l'Europe?
À partir du moment où les Américains ont décidé, dès 1977, d'exporter leurs droits à l'étranger et donc de pouvoir attaquer, contester n'importe quelle entreprise dans le monde qui aurait, soit sur la base de la corruption, soit sur la base des lois qui sanctionne les violations des embargos, qui aurait donc qui ne serait pas appliqué les droits, la législation américaine. Ça commence en 77, parce que 77, c'est la création du fameux FCPA, donc la loi américaine qui lutte contre la corruption. Et puis, il va y avoir d'autres lois.
C'est une loi FCPA?
C'est une loi, c'est la loi FCPA de 77. Et en plus, c'est une loi très intéressante dans son origine, parce que, en fait, elle part du fait que les Américains, à partir de 76, constatent que leurs entreprises sont totalement corrompus à l'étranger. Ça, c'est à partir des dossiers qui sortiront suite à l'affaire du Watergate. Et donc là, ils essaient de comprendre comment stopper ce problème de la corruption à l'étranger, non pas parce qu'il y a corruption, mais parce que ça pose un problème à la diplomatie américaine. Parce qu'en 77, le fait de corrompre des agents à l'étranger n'est pas sanctionné par la loi américaine. Ce qui est sanctionné par la loi américaine, c'est le fait que ces entreprises-là ne déclarent pas les sommes versées à des intermédiaires pour obtenir des marchés-là. Et donc, les Américains décident d'une loi qui va sanctionner leurs entreprises, et ils vont très vite comprendre qu'à ce moment-là, il va y avoir une distorsion de concurrence,
oui,
sur les marchés.
Mais la distorsion de concurrence, elle est en leur faveur?
Alors, non. Très rapidement, les entreprises ont dit, attention, oui, nous sommes sous la loi FCPA, nous interdisant de corrompre à l'étranger, mais en revanche, nos concurrents étrangers, eux, vont pouvoir continuer à corrompre puisqu'ils n'ont pas de loi qui les concerne. Donc, dès 1977, se pose le problème, quand, pour les Américains, comment faire pour que leur loi FCPA s'applique également aux entreprises étrangères.
Et alors, quelle est la solution retenue?
La première stratégie, c'est d'aller d'abord devant l'ONU et de demander à l'ONU d'appliquer leurs standards de lutte contre la corruption. Il va y avoir un certain nombre de tentatives qui vont être bloquées, non pas par les pays du Sud, mais qui vont être bloquées à cette époque déjà par les pays riches, qui vont très vite comprendre le problème, c'est-à-dire l'ingérence des États-Unis dans à travers l'extraterritorialité, dans leurs affaires. Donc ça va être bloqué. Il va y avoir des tentatives à la Chambre de commerce internationale, mais ça va aboutir à un petit code d'éthique qui ne sera pas foncièrement intéressant. Et ils vont comprendre que la cible la plus intéressante, ça va être l'OCDE. Et en effet, ils vont lobbyer, donc tout un lobbying pendant des années et des années, qui va aboutir en 1997, 20 ans après le vote de la loi FCPA, à l'adoption par l'OCDE des standards de lutte contre la corruption. Et quand vous prenez le texte de l'OCDE de 1997, vous voyez que c'est quasi un copier-coller du texte américain du FCPA de 77.
Et donc, cette loi FCPA, via l'OCDE, s'applique à toutes les entreprises internationales des pays originaires de l'OCDE?
Voilà, mais les États-Unis estiment qu'à partir du moment où l'OCDE a accepté ces luttes, il va y avoir d'autres aussi et régions qui vont adopter leurs propres textes et conventions de lutte contre la corruption, excepté l'Asie. Ça, c'est une exception. Et donc, à partir du moment où l'ensemble du monde va accepter ça, les Américains s'autorisent à poursuivre les entreprises à l'étranger qui auront corrompu à l'étranger sans aucun lien avec le territoire américain.
Sébastien Jean, cette tranche d'histoire 77-97, sur le plan économique mondial, c'est quoi? C'est une période de libéralisation de l'économie? C'est les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation?
Oh, la mondialisation, elle était déjà largement installée. Il y a deux phases au fond dans cette période. Il y a la fin de la première partie de la mondialisation moderne qui a suivi l'après-guerre et qui en gros s'arrête au début des années 80, marquée par le système Bretton Woods, la construction européenne, l'évolution des conteneurs. Et puis il y a une deuxième phase qui s'est commencée à la fin des années 80, début des années 90, qui est la phase moderne, libéralisation des marchés des capitaux, construction de l'OMC, hyper dominance stratégique américaine aussi à ce moment-là avec la chute du mur. Donc là il y a quelque chose d'un peu différent. C'est une phase de transition au fait, cette période-là. Et je pense que ce qui est intéressant dans le comportement des États-Unis dans ses relations économiques, internationales, et puis l'usage de l'extraterritorialité, c'est de mettre ça en regard de leur pouvoir. C'est-à-dire que quand ils sont très dominants, au fond, ils ont un grand pouvoir d'imposer un certain nombre de choses à leurs partenaires. Peut-être que les freins sont plus importants aussi, parce qu'ils internalisent le bénéfice d'avoir une certaine harmonie dans les relations internationales. Donc ils imposent, avec certaines limites quand même, et d'ailleurs, on va y revenir certainement, mais dans les années 90, par exemple, les Européens ont pu faire valoir quand même le respect de leur souveraineté pour poser les limites. Aujourd'hui, au fond, on est dans une situation plus dangereuse parce que je pense que la diminution relative du pouvoir des États-Unis les amène à être plus agressifs dans l'utilisation du pouvoir qui leur reste. On parle parfois de rogue superpower, de la superpuissance voyou. Hein, c'est un peu ça le risque qu'on a aujourd'hui.
Alors, l'un des pays autour duquel se jouent beaucoup de choses dans le monde des affaires au cours de ces dernières années, en tout cas, c'est l'Iran. Donald Trump a retiré la signature des États-Unis de l'accord de dénucléarisation conclu entre Téhéran et les grandes puissances. De nouvelles sanctions américaines sont entrées en vigueur et elles s'appliquent à tout le monde. Écoutez ce que disait le 2 novembre dernier le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Le 5 novembre, les États-Unis réinstaureront les sanctions qui avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire dans les domaines de l'énergie, de la construction navale et de la navigation et dans le secteur bancaire. Ces sanctions couvrent l'ensemble de l'économie iranienne. Elles sont nécessaires pour le changement que nous recherchons au sein de ce régime. Afin de maximiser les effets de la campagne de pression du président, nous avons travaillé de près avec d'autres pays pour réduire au maximum les exportations de pétrole iranien. Nous pensons accorder des exemptions temporaires à 8 pays, mais seulement parce qu'ils ont déjà réduit de manière significative leurs importations de pétrole brut et ont coopéré sur bien d'autres fronts et ont avancé de manière importante vers l'arrêt définitif de ces importations de pétrole brut. Ces négociations sont toujours en cours. C'est pourquoi nous avons maintenu et nous maintiendrons beaucoup d'exemptions humanitaires à nos sanctions sur la nourriture, les produits agricoles, les produits médicaux et les médicaments.
antibodies, medicine, and medical devices.
Les grandes entreprises qui tentaient d'effectuer leur retour sur le marché iranien ont bien compris leur intérêt. Par exemple, les entreprises allemandes. Écoutez cette correspondance de Pascal Thibault au mois d'août 2018.
Daimler prévoyait de fabriquer et de vendre des camions de la marque Mercedes en Iran dans le cadre d'un partenariat avec des entreprises locales. Le constructeur allemand, qui a été présent dans ce pays pendant 5 décennies jusqu'en 2010, évoque également l'évolution moins favorable de l'économie iranienne et de son marché automobile pour justifier son retrait. D'autres grandes entreprises allemandes préfèrent se retirer par crainte des sanctions américaines. C'est le cas d'Adidas, qui avait signé un contrat avec la Fédération iranienne de football l'an passé, ou encore de Siemens. Son PDG a comparé récemment en chiffres les enjeux pour son entreprise, 60 000 salariés aux États-Unis et 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 600 millions en Iran.
Alors, de son côté, le groupe français Total, qui avait relancé de grands projets avec la levée des sanctions contre l'Iran, a été forcé, lui aussi, d'y renoncer, sans que le président de la République française n'y voie à redire. Emmanuel Macron s'exprimait au mois de mai 2018.
Président de la République française, il n'est pas le président directeur général de Total. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que les entreprises aient la garantie par rapport à la pertinence du marché iranien de rester ou pas. Mais après, le président directeur général de Total, il a un intérêt fiduciaire à défendre et il va regarder, au vu de ce que le marché iranien lui apporte, la nature des risques qu'il prend par rapport à son marché américain, son marché saoudien et avec les autres puissances. Dès le début de l'accord signé par Total en Iran, il y avait un accord avec un partenaire chinois. Donc, pour être très clair, je considère que mon rôle et de préserver cet élément de souveraineté européenne sur le plan stratégique, et de construire la paix dans la région.
Emmanuel Macron, donc, qui s'exprimait sur le retrait de Total d'Iran après le retour des sanctions américaines, Ali Laïdi, est-ce que là, c'est du droit ou c'est le pur intérêt économique des entreprises qui font la balance entre le marché iranien et le marché américain?
C'est du droit, parce qu'elles n'ont pas le choix. Évidemment, elles font la balance, mais entre un petit chiffre d'affaires en Iran et puis un immense chiffre d'affaires aux États-Unis, il est clair qu'ils vont privilégier les États-Unis. Mais elles n'ont pas le choix, parce que le droit leur impose de ne pas avoir le choix. Et la position du président Emmanuel Macron est quand même assez étonnante. Son rôle est de préserver la souveraineté économique des entreprises françaises, donc leur possibilité d'aller faire du commerce dans le monde entier. Et il dit, en fin de compte, c'est pas mon problème, c'est celui du PDG de Total. Non, ce n'est pas celui du PDG de Total, parce qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de lois en France et aussi au niveau européen qui interdit aux entreprises européennes de se plier aux lois extraterritoriales américaines, alors la position du président de la République est de défendre cette souveraineté économique en France. Sinon, vous allez le voir d'un point de vue juridique, rien n'empêche demain les entreprises iraniennes, comme ça s'est déjà produit, à attaquer les entreprises françaises ou européennes qui n'ont pas été au bout du contrat qu'elles avaient réalisé ces dernières années. Il n'y a aucun texte de l'ONU, je le rappelle, qui interdit de faire du commerce avec l'Iran. La Cour internationale de justice a condamné l'Iran, les États-Unis en septembre, pour les obliger à ouvrir les marchés, notamment pas seulement sur la problématique agricole et médicale, mais également sur les problématiques de tout ce qui est aéronautique, de manière à pourvoir à la sécurité des avions qui volent au-dessus de l'Iran. Donc oui, c'est l'affaire de l'État. La preuve que c'est l'affaire de l'État, c'est que l'ensemble des entreprises qu'on peut voir vous disent « mais c'est pas un autre problème, c'est un problème de volonté politique ».
Sébastien Jean, est-ce que c'est une affaire économique ou juridique, cette histoire iranienne? Est-ce que, je repose la question que je posais à Heidi, c'est la balance entre le marché américain et le marché iranien, point barre, ou il y a d'autres choses qui se jouent derrière?
Pour moi, la nature profonde du problème, elle n'est ni économique ni juridique, elle est politique. Mmh. Et le président Macron a parlé de souveraineté, là, et c'est effectivement vraiment la question qui se pose. C'est-à-dire que on réclame la souveraineté de notre droit sur notre territoire, et donc, a priori, on n'a pas de raison d'accepter que le droit américain fasse pression sur nos entreprises. Maintenant, en pratique, d'ailleurs très souvent, ça n'est pas une question d'extraterritorialité en droit, mais d'extraterritorialité en application du droit, et même dans la façon d'ailleurs dont les Américains le mettent en œuvre, très souvent la façon qu'ils privilégient pour la mise en œuvre de leurs embargos et de ses conséquences sur des entreprises tierces, c'est le lien avec le territoire américain, avec des Américains, avec les marchés financiers américains, avec l'utilisation du dollar maintenant. maintenant on parle même avec des personnes américaines ou des serveurs américains, donc ça n'a plus de fin.
Je veux dire, serveurs informatiques.
Les serveurs informatiques, voilà. Donc il y a des sanctions primaires qui interdisent aux entreprises qui ont un lien avec les États-Unis de commercer avec les pays sous sanctions. Il y a des sanctions secondaires aussi, c'est-à-dire on interdit aux entreprises américaines de commercer avec des entreprises qui elles-mêmes commercent. Mais finalement, c'est souvent le caractère primaire qu'ils utilisent avec cette interprétation très extensive du lien. Bon, donc, in fine, on peut aller loin comme ça. Il y a pas mal de domaines dans lesquels ça se pose. Ce type de questions se pose, de redondance potentielle des institutions judiciaires concernées. Et il y a un moment, il faut négocier comment on sort de cette sorte de surdétermination de l'action des entreprises. Et ce qui se passe actuellement, et dans le cas iranien en particulier, ça ressemble à un abus de pouvoir par les États-Unis de leur puissance financière et diplomatique.
Ali Laïdi, dans votre livre, vous soulignez que ça n'est pas une question judiciaire qui se pose, mais purement politique administrative, c'est-à-dire c'est les procureurs américains qui déterminent quelle entreprise va être sanctionnée ou pas et à quel
c'est
montant.
C'est pour ça qu'il faut qu'on replace le mot justice. Pour nous, la justice, c'est en effet un tribunal, des jurés, un juge, des procureurs et des défenseurs. Aux États-Unis, c'est pas ça. La justice, et surtout la justice qui est menée sur les problématiques d'anticorruption et les problématiques de violation des embargos, c'est tout simplement un lien entre un procureur du DOJ, du département de la justice, ou du département new-yorkais de la justice, ou de la SEC, le gendarme des marchés, qui va voir une entreprise et qui dit « je vous soupçonne d'avoir violé la loi américaine » soit sur la corruption, soit sur les embargos, etc. Je vous prie de mettre tous les moyens pour montrer que vous êtes bien coupable. Et si je vois que vous avez mis en effet tous les moyens d'enquête pour montrer que vous êtes bien coupable, alors dans ces cas-là, on signera un deal dans lequel l'amende sera la plus basse possible. Mais à aucun moment du dispositif intervient un juge, sauf à la toute fin, lorsque l'accord est signé entre l'autorité de poursuite américaine et l'entreprise.
Que vous nous dites,
et il y a un juge qui tamponne.
C'est l'entreprise qui doit démontrer sa culpabilité, pas son innocence.
Non, elle doit démontrer sa culpabilité avec ses propres avocats. Donc imaginez que vous êtes une entreprise, vous avez des avocats, vous les payez pour montrer que vous êtes bien coupable. Et si vous avez bien fait cette enquête qui peut durer entre 9 mois, 12 mois, 3 ans sur Airbus, on va le voir, etc. Là, la justice américaine vous dit, vous avez fait un très bon travail, donc la sanction sera plutôt de telle ou telle. La preuve, c'est que il y a 3 types de deals quand vous signez avec le département de la justice. Il y a guilty plea, vous plaidez coupable. Donc là, ça veut dire, attention, vous n'avez pas joué le jeu de la collaboration à fond. Donc, on estime qu'on va vous sanctionner très fortement. Il y a le Department of Defense Prosecutement, où on vous dit en gros, bon, vous avez bien fait votre travail, vous avez bien enquêté, vos avocats ont bien enquêté contre vous, donc on estime que, d'après un système de différents facteurs et de critères, vous allez plutôt payer tant et tant. Et puis, il y a le troisième deal, où la justice américaine dit, bon, j'ai pas assez d'éléments, je suspends les enquêtes. Donc, vous voyez bien qu'il y a aucun moment un procès. Et aucune des entreprises qui ont été sanctionnées dernièrement n'ont osé aller au procès.
Alors, quelles sont ces entreprises qui ont été sanctionnées dernièrement?
Alors, Siemens, BNP, Société Générale, Alstom, Technip, Alcatel. On peut en citer des dizaines et des dizaines comme ça en Europe. Et c'est pas terminé, puisque éventuellement...
Mais alors, qu'est-ce qu'on leur reprochait, Sébastien Jean, à ces entreprises? Siemens, par exemple, pour sortir un peu du précaré français, Siemens, qu'est-ce qu'on lui reprochait aux États-Unis?
De façon générale, il y a essentiellement deux supports juridiques pour ce type de sanctions extraterritoriales des États-Unis, qui sont la lutte contre la corruption et la mise en œuvre des sanctions, des embargos commerciaux, des sanctions commerciales. Dans le cas de Siemens, comme dans le cas d'Alstom ou d'Alcatel d'ailleurs, il s'agissait de pratiques de corruption à l'étranger. Vis-à-vis desquels, d'ailleurs, quand même, il ne faut pas être une noix blanche, souvent l'État français a péché par défaut. Parce que dans le cas d'Alcatel, par exemple, bon, il était assez connu, apparemment, qu'il y avait eu un certain nombre d'autres cas, pour Alstom aussi, de juridictions étrangères qui avaient trouvé à redire. Donc, bon, on n'est pas complètement blanc non plus. Donc, ça procède de cette approche où, effectivement, les États-Unis se sont un peu érigés en gendarmes du monde sur la corruption, sur un plan moral, sur un plan d'éviter de se retrouver en faiblesse de concurrence. Et puis, je crois aussi de plus en plus, sur un plan plus pragmatique, cynique, de se dire on a là finalement un levier qu'on va utiliser pour améliorer notre position dans la concurrence internationale. Et c'est ça qui est un peu inquiétant aujourd'hui. Et là-dessus, ce qui était assez intéressant, c'était l'affaire Snowden. Hein, toutes les fuites des écoutes de la National Security Agency américaine, la NSA, dans lesquelles on a vu qu'ils faisaient un signalement de tous les contrats de plus de 250 millions d'euros passés par des entreprises européennes. Donc là, on n'est plus dans la sécurité. Donc, il faisait de l'intelligence économique au service des entreprises américaines.
C'est de l'espionnage.
Voilà. Absolument.
L'intelligence économique, absolument. C'est un peu autre chose. Mais c'est de l'espionnage. Mais juste pour dire, pour l'affaire Siemens, c'est une affaire de corruption plutôt dans des pays asiatiques qui a été lancée d'abord par la justice allemande. Et c'est en voyant que la justice allemande, à travers des coupures de presse, attention, que la justice allemande enquêtait sur Siemens, que le département de la justice américaine s'est empressé de récupérer également l'affaire, ce qui signifie que sur un plan juridique, c'est assez étrange, c'est qu'une entreprise a été condamnée deux fois pour les mêmes faits. Une fois aux États-Unis et une fois en Allemagne. Ça pose un vrai problème d'un point de vue juridique, puisqu'il y a une règle qui dit que normalement, vous n'avez pas le droit d'être condamné deux fois pour les mêmes faits.
Non bis in idem.
Voilà.
C'est l'expression latine qu'on cite souvent. Alors, l'une des grandes entreprises qui a payé cher ses problèmes avec les États-Unis, c'est la banque BNP Paribas, 9 milliards de dollars. La décision est tombée en 2014, bien que le gouvernement français ait tenté de l'empêcher. Écoutez François Hollande, alors président de la République, le 6 juin 2014, et le même jour, la réponse de Barack Obama, président des États-Unis.
Mon devoir, mais pas simplement parce que je suis le président de la République française, mais parce que je suis aussi conscient des risques que pourraient avoir des sanctions totalement disproportionnées, injustes, et surtout d'une hauteur telle, si on en croit certaines supputations, qu'elles pourraient avoir des conséquences économiques et financières sur l'ensemble de la zone euro. J'ai noté que les autorités américaines, ce Kerry s'est exprimé, étaient conscientes. Je suis également informé de ce qu'est la justice américaine. Je la respecte, elle est indépendante. Mais en même temps, nous avons des relations entre les États-Unis et la France, un partenariat, et rien ne doit pouvoir le compromettre.
My answer on the banking cases.
Ma réponse concernant cette affaire bancaire est courte et simple à la fois. La tradition des États-Unis veut que le président ne se mêle pas des affaires de justice dans son pays. Je ne décroche pas le téléphone pour appeler le procureur général et lui dire comment il doit instruire une affaire. Je ne pousse pas à des règlements à l'amiable dans ce genre de cas. Ces décisions-là sont prises par un département de justice qui est indépendant. Et c'est ce que j'ai fait savoir au président Hollande. Ce n'est pas moi tout seul qui défend cette position. C'est une tradition dans notre pays qui est peut-être différente des traditions qui peuvent exister dans d'autres pays, mais elle garantit que l'état de droit n'est pas soumis à des considérations politiques.
François Hollande et Barack Obama, donc au mois de juin 2014, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons de cette autre guerre économique américaine, celle contre les entreprises étrangères, avec deux invités, Sébastien Jean, directeur du CPI, et Ali Laïdi, chroniqueur à France 24, auteur du livre « Le droit, nouvelle arme de guerre économique » aux éditions Actes Sud. Ali Laïdi et Sébastien Jean aussi d'ailleurs, vous étiez quasiment hilar en écoutant Barack Obama.
Ben oui, parce que...
Qu'est-ce qui vous fait rire, Obama ou Hollande?
Non, ce qui m'étonne, et alors c'est la réaction d'Obama qui dit qu'il y a un mur entre l'exécutif et l'administration de la justice. Pourquoi ça m'étonne? Il dit que c'est une tradition américaine. Mais juste pour vous montrer qu'il y a un lien entre le président et l'administration de la justice, c'est qu'en ce moment, un certain nombre d'affaires ZTE et Huawei vont être sans doute jugées, ou du moins approchées par l'administration de la justice, avec un biais politique, parce qu'il va falloir s'entendre. Donc sur l'affaire BNP, c'est vrai que le président Obama a été très clair, il a laissé faire les procureurs du ministère de la justice, et l'amende est montée jusqu'à 9 milliards. Pourquoi ? Parce que dans cette affaire, il est vrai que BNP a été prévenu à de nombreuses reprises. Donc l'affaire date de 2014. Dès la fin des années 2010, la justice américaine prévient un certain nombre de dirigeants de BNP qu'ils vont trop loin je précise qu'il leur reproche tout simplement de faire des affaires avec le Soudan, avec l'Iran, donc des pays qui sont sous embargo américain. Donc ils ont été prévenus, donc pour les Américains, ils n'ont pas suffisamment réagi à ces alertes-là, et donc elles ont été pénalisées d'une amende de près de 9 milliards qui a été un record hein, sur ce plan-là. Ça a été un vrai record et c'est vrai que les Français ont été totalement démunis face à cette décision de la justice américaine.
Sébastien Jean, donc votre sourire en entendant Obama avait les mêmes raisons les mêmes causes que le sourire d'Alila Hidi?
La défense d'Obama, elle est tout à fait logique. On reviendra sur la période actuelle. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elle est sapée par le comportement présent du président Trump. Ce qui est frappant s'agissant de la mise en œuvre des sanctions commerciales, c'est que si on regarde l'ensemble des amendes qui ont été payées, le rapport parlementaire Karine Berger, Pierre Lelouch, il y a quelques années, montrait que 2/3 des montants avaient été payés par des entreprises étrangères, 1/3 seulement par des entreprises américaines. Alors, il faut bien souligner que par ailleurs, la justice américaine impose à leurs entreprises, notamment à leurs banques, des amendes colossales. Dans le cadre des suites de la crise des subprimes, c'est entre 60 et 70 milliards de dollars d'amendes qui ont été imposées aux banques. Dans le cadre de la crise financière et des banques, c'était essentiellement des banques américaines et c'est elles qui ont payé les plus fortes amendes. Maintenant, voilà, quand on regarde l'application sur les sanctions, on voit que le gros de la facture a été acquitté par des entreprises étrangères, ce qui laisse quand même un peu perplexe. Et puis, bon, il y a cette direction d'évolution qui fait que est difficile de pas mettre en doute aujourd'hui la bonne application de ça. Ensuite, les bases pour déterminer l'application des sanctions, les bases objectives, elles sont très difficiles à identifier et même à objectiver. Même le principe, il faut quand même rappeler que nous aussi, Européens, nous appliquons l'extraterritorialité, en particulier s'agissant du droit de la concurrence. Il nous est arrivé, par exemple, mais on le fait à une échelle beaucoup plus réduite et puis sur des bases beaucoup plus claires et transparentes, il nous est arrivé, par exemple, lors de la fusion entre Dupont de Nemours et Dow Chemicals, de leur dire, ça pose un problème. Deux entreprises du secteur de la chimie, deux entreprises américaine, de leur dire ça nous pose un problème par votre fusion, par ses effets sur le marché européen. Et le remède qu'ont apporté ces entreprises, ça a été la cession de moyens de production à l'extérieur du territoire européen. Donc les entreprises étaient étrangères à l'Union européenne, extérieures, et le remède lui aussi l'était. Donc ça veut dire que sur le principe, on peut pas dire zéro extraterritorialité, on n'en veut pas, ça n'existe pas. Non, ça existe, c'est là. C'est une réalité qu'il faut justement, c'est un objet politique de négociation, de rapport de force.
Oui, mais là, ça avait un impact sur le territoire européen, puisque c'était l'entrée de mastodontes qui faussait peut-être la concurrence.
Absolument, mais ensuite...
Donc ça avait un caractère très territorial, pas seulement extraterritorial.
Ça avait un caractère territorial dans le sens où on disait que ce qui nous intéressait, ce qui était le critère de décision, c'était l'effet sur le marché européen. Ensuite, si les Américains ont un critère un peu différent en disant c'est l'effet sur le lien avec des acteurs américains, hein, bon, là, on est dans une affaire de jugement. Voilà, simplement, le résultat dans le cadre de BNP... on l'a dit, était une amende astronomique, effectivement, qui se voit au niveau macroéconomique, oui, de la balance des paiements de la France.
Alila Hidi, vous vouliez intervenir sur cette proportion d'amende entre entreprises américaines et entreprises étrangères. Sébastien Jean faisait remarquer que les entreprises américaines en avaient payé quand même beaucoup.
Et des non, c'est là où je distingue. Donc c'est vrai que dans le rapport Lelouch-Berger, il est montré que en ce qui concerne
le rapport parlementaire français,
la lutte contre la corruption et la violation des embargos, les entreprises européennes en particulier ont payé le plus cher tribut. En revanche, sur la problématique des subprimes, c'est vrai que les entreprises, les banques américaines ont énormément payé. Mais je précise simplement que les banques européennes ont également énormément payé à l'administration américaine. Les banques européennes n'ont payé que 6% des amendes aux administrations européennes. C'est quand même incroyable que la crise des subprimes qui vient des États-Unis soit en partie remboursée par des banques européennes, même si, on est d'accord, elles ont participé aux subprimes, etc. Mais que seulement 6% des sommes versées par les banques européennes l'aient été aux administrations européenne. C'est quand même assez incroyable.
On peut dire aussi que l'administration française, la justice française, aurait dû aller plus loin dans les procédures judiciaires consécutives au dysfonctionnement du marché financier.
Tout Sapin 2, la loi Sapin 2.
Alors justement, j'allais vous poser la question. Ali Laïdi, les Français ont fait voter un texte sous la présidence Hollande qui s'appelle la loi Sapin 2, qui, dites-vous, est un décalque dans le droit français de la loi américaine. Dans votre livre, vous, c'est un argument que vous avancez.
Oui, mais ils en sont parfaitement conscients. C'était d'ailleurs une des propositions du rapport parlementaire Lelouch-Berger. C'était de dire, nous allons aussi appliquer ce système américain qui fait que, en fin de compte, il ne faut pas passer devant la justice.
De lutte contre la corruption,
voilà.
C'est ça. Hein.
Il faut pas passer devant la justice, devant un tribunal, parce que c'est trop long. Donc, on a créé un instrument qui permet, en effet, de voir l'entreprise, de négocier avec elle et d'éviter de passer devant un tribunal en la sanctionnant un certain montant qui est calculé par rapport au chiffre d'affaires sur les trois dernières années du chiffre d'affaires global. Donc oui, il y a cette manière de récupérer un petit peu du droit anglo-saxon et de l'appliquer à ce droit latin qui est notre droit, le droit continental. Donc c'est une manière de régler un certain nombre de problèmes en disant attention aux Américains, nous on fait le même. Nous allons laver notre linge sale en famille. Donc stop, arrêtez de nous poursuivre. On va faire ce travail-là. On reconnaît qu'on ne l'a pas fait suffisamment auparavant, mais maintenant on va le faire.
Mais est-ce que les Européens le font? Parce que ça, la loi Sapin 2, c'est français, hexagonal. Oui. Est-ce qu'il y a, au niveau de l'Union Européenne, le même genre de démarche?
Non. Au niveau de l'Union Européenne, il y a une réflexion pour calquer le système américain de poursuite lorsqu'on viole les embargos, donc, par exemple contre l'Iran, c'est l'OFAC qui est un organisme rattaché au ministère du Trésor, et l'idée c'est de créer aussi un OFAC au niveau européen pour surveiller la bonne application des sanctions de l'Union européenne. Mais la lutte contre la corruption, c'est encore un débat national. Les États n'ont pas envie de lâcher cette question-là. On le voit très très bien dans la manière dont les Roumains sont en train d'empêcher l'un de leurs juges d'aller au niveau européen s'occuper de ces problématiques sur les fonds uniquement européens. Donc oui, il y a à la fois une tentative de dire aux Américains on va faire le boulot, mais en même temps ça signifie qu'on va prendre une partie du droit américain qui consiste en gros à ce que 95% des affaires ne passent pas devant un tribunal mais soient réglées par un juge.
Alors ça n'empêche pas les Américains de s'en prendre à des fleurons de l'industrie française et européenne, c'est Airbus, Sébastien Jean.
Oui, il y a une enquête ouverte par le département de la justice américain contre Airbus, d'après ce qui a été rapporté notamment par le journal Le Monde en décembre dernier. Et c'est une menace très sérieuse, visiblement prise très au sérieux par l'entreprise elle-même, parce que, en tout cas, moi, si je me réfère à ce qui est rapporté par les journalistes là-dessus, hein, parce que moi, j'en ai pas connaissance directement.
Avec Confrères du Monde, oui.
On parle d'une part du fait que cette enquête, elle aurait déjà été ouverte depuis longtemps. Je me rappelle plus la date exacte, mais si j'ai bien compris, de l'ordre de 18 mois, que Airbus a vu la menace arriver depuis longtemps, a déjà fait énormément de ménage en interne pour essayer d'ouvrir des pare-feux au fond, ménage
de faire partir des gens.
De faire partir beaucoup de monde, oui. Y compris d'ailleurs, c'est visiblement l'une des causes principales du départ, du non-renouvellement de son président. Tom Enders. Donc on ne parle pas juste de petits second couteaux, c'est vraiment quelque chose d'assez massif, de suppression même de la division stratégie et opération qui était, stratégie et marketing, qui était au fond l'outil de ces intermédiations pour obtenir des grands contrats, parce que ce qui est reproché potentiellement à Airbus là-dedans, hein, puisque tout ça est seulement au niveau de l'instruction, mais ce qui a priori est reproché à Airbus, c'est des pratiques d'utilisation d'intermédiaires qui potentiellement eux-mêmes vont corrompre des décideurs publics pour obtenir des contrats. Et de pas avoir été transparent là-dessus, de pas avoir dûment renseigné ce type de pratique. Donc c'est quelque chose de très inquiétant au regard de l'importance d'Airbus dans l'industrie française, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, et ça s'est beaucoup accentué depuis 20 ans, les exportations aéronautiques compte pour une part énorme dans les exportations françaises, quasiment un sixième si on prend l'ensemble de, enfin un peu moins que ça en fait si c'est, mais si quand on prend le poste général, c'est vraiment le secteur et puis le secteur de réussite industrielle en France.
Hein,
si
d'ailleurs, c'est quelque chose que vous soulignez dans la lettre que je citais au début de l'émission. Absolument. Sur l'atonie des exportations françaises.
Absolument, parce
qui était publié par le CEPI.
Dans un contexte de perte de marché global de l'industrie française, il y a vraiment il y a deux secteurs en fait qui sont vraiment qui sortent du lot, c'est le luxe d'une part et l'aéronautique d'autre part. Et l'aéronautique, il y a effectivement une des gains de part de marché absolument spectaculaires. Donc c'est stratégique. Et puis d'autre part, ben on voit bien qu'on vend pas des Airbus comme on vend des petits pains. Donc le côté relation publique, relation avec le secteur public, relation avec des décideurs haut placés et potentiellement commissions occultes, on sent bien que c'est quelque chose d'important dans ce domaine. Donc on a vraiment le sentiment, en tout cas le questionnement d'une éventuelle offensive stratégique des Américains sur ce secteur.
Allez, là, il dit, Airbus est en danger.
Oui, très clairement. Hein. Vous avez vu que hier ils ont annoncé un milliard de provisions, bon, pour l'ensemble, l'arrêt de la 380, et également ces millions et ces millions dépensés par Airbus pour ses avocats. L'affaire Airbus, c'est quoi? C'est tout simplement deux hommes, Tom Enders et son directeur juridique, qui constatent en effet qu'un certain nombre d'intermédiaires n'ont pas été déclarés. Ça, c'est pas accepté. Donc, ils vont devant. Ils prennent l'initiative d'aller devant le SFO, donc le Serious Fraud Office anglais, et devant le PNF, donc Parquet National Financier français, eux-mêmes déclarer un certain nombre d'omissions d'intermédiaires. Et ça attire l'attention évidemment des Américains, qui sont déjà sur une réflexion et une enquête par rapport à ce qu'on appelle le système ITAR. ITAR, c'est un système qui oblige tous les exportateurs qui utilisent des technologies américaines à un certain pourcent de déclarer leur réexportation de ces technologies américaines. Et donc, on reproche à Airbus, côté américain, qu'ils n'auraient pas tout déclaré dans leur réexportation de technologies américaines. Et en plus, nous apprend Le Monde le 18 décembre dernier, une ouverture, mais pour l'instant, ça n'a rien d'officiel, parce qu'à partir du moment où le DOJ, le département de la justice américaine, officie une ouverture d'enquête, donc exige une enquête interne de la part d'une entreprise, alors cette entreprise doit officiellement le communiquer à travers son président et le conseil d'administration. Donc on doit attendre le texte officiel du CA d'Airbus et du président d'Airbus pour savoir si il est clair que l'administration américaine poursuit ou pas. Donc tout ça, ça s'amoncelle. C'est-à-dire qu'il y a un front anglais, un front français et un front américain.
Est-ce que ça veut dire la possibilité d'une énorme amende pour Airbus?
Oui, c'est tout à fait. La stratégie de Tom Enders, c'était quoi? C'était de dire, à partir du moment où on va devant les Anglais, où on va devant le parquet national financier, dire qu'on a oublié de déclarer un certain nombre d'intermédiaires, alors les Américains vont dire, ah, les Français, les Anglais vont faire le travail. Mais il semble que non. Il semble que les Américains aient envie aussi de poursuivre Airbus. Et dans ces cas-là, vous imaginez l'amende franco-anglaise plus l'amende américaine. À moins que les Américains fassent ce qu'ils ont fait sur Société Générale, ce qui est une première en juin l'année dernière, c'est qu'ils sont allés voir le parquet national financier français sur la SOCGEN, Société Générale, la banque, et ont dit, allez, on va s'entendre tous les deux et on va partager l'amende tous les deux. Est-ce qu'ils vont faire la même démarche, voir les Français, les Anglais, et dire, allez, on va se partager tous les trois une amende? Mais vous imaginez, se partager une amende pour Airbus, c'est plus d'un milliard de dollars.
On sent que vous êtes inquiet, Sébastien Jean, que cette affaire-là fait peser des risques sur l'équilibre de cet Airbus.
C'est un secteur spécialement stratégique, je le disais, un secteur dans lequel la confrontation est ancienne et dure, hein, y compris dans l'évolution de la jurisprudence à l'Organisation mondiale du commerce, les subventions par exemple, les différents Airbus-Boeing ont joué un rôle très important. Dans un contexte où les Chinois sont en train de créer leur propre champion, ils sont pas encore au niveau, mais ils avancent très vite, la COMAC, c'est particulièrement, disons, un contexte potentiellement de rupture, disons. Et l'autre aspect, c'est le virage pris par les Américains. Et là, alors je reviens peut-être à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les affaires avec la Chine, avec les fabricants d'électronique chinois ZTE, puis Huawei, ont été des affaires dans lesquelles il a été non seulement manifeste, mais même avoué ouvertement qu'il y avait une interférence politique dans le débat judiciaire. Dans le cas de ZTE, par exemple, poursuivi pour violation des sanctions américaines, les Américains, le département de justice, interdit aux fournisseurs américains de vendre leurs microprocesseurs à ZTE, qui, en 5 semaines, une entreprise de 75 000 personnes, en 5 semaines, l'entreprise se retrouve à genoux, suspend sa cotation, suspend ses activités productives. Qu'est-ce qui se passe? Le président Xi, le président chinois, appelle Trump, Donald Trump, qui... pour d'ailleurs dans des termes qu'on ne connaît absolument pas, règle le problème entre eux. Donc, alors c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'alors là, vraiment le principe dit tout à l'heure, souligné par Obama, de séparation des pouvoirs, vole en éclats de façon spectaculaire, avec d'ailleurs toutes sortes de suppositions sur ce qu'il y a eu derrière. Donc, c'est inquiétant. Ça laisse penser justement que les Américains, dans un contexte où le multilatéralisme, en tout cas pour cette administration, ils ont l'air de passer par perte des profits, de s'en moquer complètement, voire de le combattre, et finalement cherchent à maximiser leur impact, leur puissance aujourd'hui, sans se préoccuper des impacts de long terme. Voilà. Et ça peut être très destructeur.
Les lois américaines sont si puissantes qu'elles ont obligé même les autorités canadiennes à arrêter la fille du fondateur de l'entreprise Huawei. Écoutez le premier ministre canadien Justin Trudeau au sujet de cette affaire et les précautions de langage qu'il emploie.
Je peux vous certifier que la justice dans notre pays est indépendante. Les autorités compétentes ont pris dans ce dossier les décisions qui s'imposait sans aucune intervention politique, comme il se doit dans un état de droit. Le gouvernement a été informé quelques jours à l'avance que cette arrestation était prévue, mais à aucun moment nous ne sommes intervenus sur le plan politique, car nous respectons l'indépendance de la justice. J'ajoute que je n'ai eu à ce sujet ni contact, ni conversation directe ou indirecte avec aucun de mes homologues étrangers.
Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Huawei dans le collimateur, c'est une grosse affaire, Ali Laïli.
Ah oui, c'est une très très grosse affaire et Sébastien Jean l'a très bien dit, je pense qu'il va y avoir aussi un deal de justice, c'est-à-dire qu'une implication du président Trump pour la régler cette affaire. Donc ils sont embarrassés quand même les Canadiens sur cette affaire. Ils ont laissé faire en effet leur lien avec les États-Unis qui leur demandent d'arrêter cette personne. Ensuite, ils ont dit qu'ils prenaient une décision le 6 février. Ensuite, ils ont annoncé qu'en fin de compte, les juges canadiens avaient besoin d'avoir plus d'éléments sur cette extraterritorialité américaine et donc ont déplacé jusqu'au 6 mars leur décision d'extradition ou pas.
Est-ce qu'il faut voir un lien entre cette affaire ZTE, cette affaire Huawei et puis les négociations commerciales, la guerre commerciale entre Chinois et Américains?
C'est direct. Le cauchemar des États-Unis, Made in China 2025. Le cauchemar, c'est ça. C'est qu'ils sentent qu'en effet, ils vont perdre la main d'un point de vue technologique.
Oui, ma question est plus précise que ça. Est-ce que les Américains s'emparent de personnes privées pour faire pression sur les pouvoirs publics chinois?
Alors, quand vous lisez le livre de Frédéric Pierucci, qui est l'un des cadres de Alstom, qui a été arrêté, qui a passé 2 fois 12 ou 2 fois 14 mois en prison, il est clair qu'au moins, c'est Frédéric Pierucci qui le dit, il l'a ressenti comme ça.
Sébastien Jean, est-ce que les Américains s'emparent de personnes privées pour faire pression sur des États?
Je crois qu'ils n'inventent pas de toutes pièces des affaires. Ils instrumentalisent des affaires existantes à des fins, effectivement, de négociations commerciales. Et là encore, Donald Trump l'a reconnu ouvertement, candidement, d'ailleurs très maladroitement, en décembre, en disant qu'il allait servir de l'arrestation de la directrice financière de Huawei comme d'une carte dans sa négociation avec les Chinois. Alors là, donc, une fois de plus, le principe de l'indépendance des pouvoirs vole en éclats. Donc, il y a une utilisation plus ou moins masquée, plus ou moins discrète, et plus ou moins moins réel, hein, parce que c'est pas forcément la norme, mais quand il y a des dossiers stratégiques comme ça, dans le cas de Alstom, effectivement, on a quand même une certaine accumulation de faits très troublants qui laissent vraiment penser qu'il y a eu instrumentalisation de ce dossier judiciaire. Donc, ils l'ont pas inventé. Il était là, il existait, mais ils l'ont utilisé.
Et pour faire, pour faire pression sur Alstom et sur les autorités françaises pour démanteler
pour renforcer la main de General Electric dans son offre de rachat de la division énergie d'Alstom. Alors qu'ils étaient en concurrence avec une offre de Siemens et Mitsubishi. Et donc, clairement, la justice américaine a, d'une part, utilisé la pression judiciaire, la menace même, j'allais dire, physique, là, pour le coup, sur les personnes, les dirigeants d'Alstom, en leur disant, attention, hein, voilà, il y a déjà une personne à la direction qui est en prison, mais aussi une incitation financière en faisant en sorte que si GE reprenait Alstom, le coût final pour l'entreprise soit beaucoup moins élevé. Donc, il y a une combinaison de tout ça. Et maintenant, ce qui est intéressant pour revenir à l'affaire Huawei, c'est que le Canada, vous avez bien fait de commencer par eux, se retrouve véritablement aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, dans une situation extrêmement difficile parce qu'il y a une crise diplomatique ouverte avec les Chinois. Et qu'ont fait les Chinois ? Eux, ils s'embarrassent un petit peu moins de principes et ils mettent moins de gants. Ils ont arrêté une série de ressortissants canadiens. Il y en a deux dont les arrestations ont été publicisées beaucoup. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont toujours en prison. Mais il y en a beaucoup plus que ça qui ont été arrêté. Il y avait quelqu'un qui était impliqué dans une affaire de drogue dont la peine avait été une peine de prison qui a été rejugée et condamnée à mort. Elle n'a pas été appliquée cette, pour l'instant, cette sanction, mais cette peine. Voilà, donc c'est pour le coup... Là, vraiment, on voit qu'on est revenu directement dans le jeu politique, diplomatique. On fait plus dans la dentelle. C'est un rapport de force pur et dur.
Allez, là, il dit, aux États-Unis, des parlementaires viennent de déposer devant le Congrès une proposition de loi anti-OPEP. J'ai entendu parler de ça. Ouais. L'objectif de cette loi est de permettre aux autorités américaines de poursuivre tout groupe de pays qui se concerterait pour peser sur les cours du pétrole en modulant leur niveau de production. C'est la même politique ?
Ouais, c'est sur la base du Sherman Act, hein, qui est une vieille loi américaine, hein, et qui dit qu'en effet qu'on interdit la création de monopole. Et tout à coup, ils se disent, tiens, il y a un monopole, c'est l'OPEP, il faudrait lutter contre ce monopole. Mais attention.
Et ça coïncide aussi avec le fait que les États-Unis sont devenus un très gros, sinon le premier producteur de pétrole.
C'est le premier producteur, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont exporter cette loi pour essayer d'attaquer l'OPEP ? Là, ils s'attaquent à du très très lourd. Et là, on est vraiment dans de la géopolitique très très dure.
Sébastien Jean ?
Oui, effectivement, on est dans des... disons, dans l'un des freins à l'utilisation de cette extraterritorialité, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ce type d'action, hein, parce que, donc on voit cette tentation d'en abuser, ça pose la question de savoir quels sont les freins. Bon, bah, dans le cas de l'OPEP, on voit que les freins, ça va être la capacité d'action en retour de ces puissances. Ça peut être aussi l'impact économique des mesures qu'on entreprend. Par exemple, sur l'Iran, ils ont quand même donné des exemptions aux exportations de pétrole, mais en fait les Américains, pour eux, c'était aussi une façon de modérer l'impact indirect sur les prix du pétrole, parce que si j'interdis toute exportation de pétrole iranien, je baisse brutalement l'offre au niveau mondial, donc je fais monter les prix. Donc les exemptions vis-à-vis de la Chine notamment, c'était une façon de relâcher un peu la soupape. Voilà. Ça, c'est un des freins, disons, les conséquences économiques, et puis la capacité de représailles ou de blocage d'adversaires, et elle sera grande quand même du côté de l'OPEP.
Merci Sébastien Jean, merci Ali Laïdi. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Ali Laïdi, je rappelle le titre de votre livre aux éditions Actes Sud, Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes. Vous pouvez retrouver cette information sur la page internet des d'Ecodici Eco, d'ailleurs sur le site www.rfi.fr, où vous pouvez aussi nous réécouter, tout comme sur vos téléphones portables, via l'application Pure Radio. Remerciements aussi à Françoise Delignon, Charles Mamère de la Sonothèque de RFI, sans lesquels cette émission n'aurait pas été possible, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Eco d'ici, Eco d'ailleurs, sur RFI.